Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pourquoi des enfants innocents souffrent-ils? Depuis des mois, nous lisons avec horreur de nombreux récits et le résultat d'enquêtes au sujet d'enlèvements d'enfants. Ceux-ci sont séquestrés, destinés au plaisir de pédophiles qui en abusent jusqu'à ce que mort s'en suive dans la plupart des cas. Quotidiennement, nous découvrons des tragédies dans la presse. Des enfants périssent dans des accidents de la route et d'autres se retrouvent orphelins de père ou de mère, ou pire encore des deux. Combien d'incendies causés par des enfants jouant avec des allumettes? Combien de camarades blessés ou tués parce qu'une arme chargée était imprudemment à portée de main d'enfants qui voulaient seulement jouer aux gendarmes et aux voleurs? Combien d'enfants succombent après avoir avalé des produits toxiques laissés aussi à leur portée? Combien de noyades par manque de surveillance, et j'en passe, car la liste est longue, trop longue, hélas. Terrassés par le chagrin, les parents se demandent pourquoi Dieu permet de telles tragédies et n'intervient pas in extremis. Lorsque le Christ était sur la terre, il manifesta son amour pour les enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Pourquoi les reportages sur les pays du tiers-monde sont-ils remplis d'images d'enfants sans énergie, sans grande réaction, le ventre gonflé, squelettique, malade, affamé, le regard vide? Dieu est tout-puissant. Pourquoi alors ne met-il pas fin à ces tragédies horribles? Dieu a créé l'univers. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Toutefois, il a limité l'homme, qui est un être physique, composé des éléments du sol, sujet à la corruption et à la mort. Dieu le plaça ensuite devant un choix. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Remarquez qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres avaient chacun une signification symbolique opposée, représentant une façon de vivre, un choix différent. L'arbre de la vie symbolisait la voie divine qui consiste à donner, à aimer son prochain. Si nos premiers parents avaient pris de cet arbre plutôt que de l'autre, ils auraient reçu le Saint-Esprit, la compréhension spirituelle et la vie éternelle. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il symbolisait la désobéissance, l'acquisition de la connaissance par le raisonnement et l'expérience de l'homme rejetant Dieu, la voie divine et toute l'aide de la puissance que celle-ci implique. L'Éternel interdit à Adam de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il l'avertit que la désobéissance à cet ordre entraînerait la peine de mort. Mais il s'agissait de la mort éternelle, puisque Adam avait été créé physique, composé des éléments du sol, donc mortel. En poursuivant ce récit, nous constatons que Satan, sous la forme d'un serpent, séduisit Ève. Elle prit du fruit défendu, et Adam ne protesta point. Ève choisit la mauvaise voie. Elle prit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. ils enfreignirent tous deux l'ordre de l'Éternel et décidèrent de vivre ainsi, à leur façon, sans l'appui de Dieu. Ils rejetèrent la vie éternelle et choisirent la mort. Ce mauvais choix fut la source de grandes souffrances. La femme allait enfanter dans la douleur, et c'est avec peine que l'homme tirerait d'un sol maudit toute la nourriture pour tous les jours de sa vie, jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière d'où il avait été tiré. L'humanité, donc tous les descendants du premier couple, ont suivi la même voie. Ils ont rejeté Dieu qui leur aurait permis de connaître une vie remplie d'amour, de joie, de paix, et le monde aurait été prospère et heureux. Mais attention, n'accablons pas nos premiers parents. Nous devons tous accepter notre part de responsabilité dans leurs décisions, car les paroles du roi Salomon s'appliquent à chacun de nous. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. La tragédie peut survenir à tout moment, selon des circonstances fâcheuses et imprévisibles parfois. Salomon dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Toutefois, nous devons bien reconnaître que la plupart des difficultés et des tragédies surviennent à cause de nos mauvais choix, de nos négligences, de nos imprudences et de notre manque de sagesse. Comme vous, sans doute, j'ai eu l'occasion de rendre visite à des personnes mourantes et souffrant atrocement sur un lit d'hôpital, malgré les calmants de plus en plus puissants. Nombreuses sont celles qui ont exprimé des regrets, disant « Si je pouvais recommencer ma vie, je ne me droguerais plus, je ne fumerais plus, j'observerais les lois divines. Si seulement j'avais eu la sagesse de faire la volonté de Dieu, je ne serais pas ici, loin des miens que je vais devoir abandonner trop tôt. » La clairvoyance de ces personnes leur permettait de réaliser leur triste situation, mais aussi le chagrin et le désarroi de leur famille. Tout cela résultant de leur mauvais choix, de leur insouciance vis-à-vis des lois que Dieu a fixées, dans le but de nous gratifier de bénédictions. Si l'homme ne les observe pas et en subit les conséquences malheureuses, Dieu n'est pas responsable, c'est l'homme qui l'est. Tout comme Adam et Ève, nous sommes fautifs. Nous sommes tous coupables d'avoir rejeté Dieu et d'avoir transgressé ses lois. Paul a écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Personne ne peut donc rendre Dieu responsable de nos péchés, de nos mauvais choix, de nos imprudences et de nos négligences. Si des jeunes innocents souffrent, meurent dans des accidents de voiture, deviennent orphelins, périssent dans un incendie ou par absorption de produits toxiques, Dieu est-il responsable? Si des accidents frappent, si des tragédies surviennent, si des drames s'abattent sur certaines familles, il se peut que ce soit à cause d'équipements défectueux ou d'erreurs de calcul, comme ce fut récemment le cas pour un téléphérique. Il y a encore la distraction, l'ébriété, tant de choses qui se passent dont l'homme est seul responsable. Il arrive que des parents soient imprudents et négligent d'avertir leurs enfants des dangers qui les entourent. Combien de parents ignorent où jouent leurs enfants, ce qu'ils font? Corrigez-les lorsqu'ils désobéissent à vos instructions. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Le livre des Proverbes conseille « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. » Autrement dit, corrige ton fils aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que tu peux le faire, ne l'épargne pas, de peur qu'il ne soit détruit. C'est un conseil rempli de sagesse. Si les parents l'avaient suivi depuis la tendre enfance de leurs enfants, nous ne connaîtrions pas ce climat de révolte parmi les jeunes, ces voitures incendiées sans raison, ces professeurs agressés. Non, Dieu n'est nullement responsable des plaies de l'humanité. C'est parce que la rébellion et le péché règnent sur la terre depuis la création de l'homme que les souffrances sont présentes et que la mort éternelle, qui est le salaire du péché, s'est étendue sur tous les hommes. Le livre des Proverbes ajoute « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Dieu est un Dieu d'amour. Il est compatissant, miséricordieux, et il n'aime pas voir l'homme souffrir. Il a envoyé un deuxième Adam, le Christ, pour nous permettre d'être réconciliés avec lui et d'obtenir son Saint-Esprit à condition de mettre en pratique la voie divine. Ce second Adam n'a jamais péché, et il a toujours marché avec Dieu. Comme Adam et Ève, comme chacun des hommes qui a vécu et qui vit encore sur terre, il a été tenté par Satan, mais ne lui a jamais cédé, c'est ce que l'apôtre Paul confirme en disant « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Beaucoup de gens s'imaginent que, lorsqu'il était parmi les hommes, le Christ avait gardé sa divinité et, par conséquent, ne pouvait pas pécher. C'est faux, puisque l'apôtre Paul ajoute « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La mort dont Jésus suppliait son Père de le sauver n'était pas la mort physique, car il avait déclaré au sujet de sa vie physique « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Tenant compte de cette déclaration, seul le Christ avait à décider s'il allait ou non poursuivre sa mission jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Il était libre de faire marche arrière, s'il le souhaitait. Il ne suppliait donc pas son Père de le sauver de la mort physique, mais de lui donner la force de résister à la tentation, de ne pas succomber au péché, et donc d'éviter la mente, le salaire du péché qui est la mort, mais la mort éternelle. Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Dieu s'intéresse à sa création, à ceux qu'il a appelés à connaître sa vérité. Il donne accès à son Saint-Esprit par le Christ. Le Tout-Puissant nous a mis sur cette terre pour que nous puissions partager son existence et devenir des membres de sa famille. Dieu répond à celui qui le recherche sincèrement, à celui qui frappe à la porte, à celui qui veut faire sa volonté et qui décide de mettre en pratique les paroles que Pierre adressa à la foule émue qui lui demandait « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous ». Se repentir, c'est décider de rejeter le péché, qui est la transgression de la loi, pour enfin vivre en conformité avec elle et selon la volonté de Dieu.